Après le déluge, Dieu a béni l'humanité et a donné un ordre à deux reprises. Il leur a dit, « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. » Deux fois, il a donné cet ordre, mais les hommes ont décidé de résister à Dieu, ont décidé autrement. Et dans la Genèse 11, il nous est dit qu'ils étaient tous ensemble, ils parlaient une même langue, et ils sont arrivés dans cette contrée, en Asie-là, et ils ont dit, restons ensemble, bâtissons une ville, bâtissons une tour, qu'il touche le ciel, et nous ne voulons pas nous disperser. Alors Dieu a descendu pour voir et pour confondre le langage des hommes. Il les dispersa sur la face de toute la terre. Et le jugement de Dieu de la tour de Babel, il fut lourd des conséquences. Dieu brisa l'unité de la race humaine. Ils ont voulu rester ensemble avec une même langue, se faire un nom. Et depuis là, les nations se sont divisées par la langue, par la culture, par les préjugés, par les distances, par les désirs, par tout ce que vous voulez. Et Dieu permettra une seule fois encore l'unification de la terre entière, cette fois, sous le bras dictatorial de l'Antichrist. Et ça sera à la fin des temps. Et il n'est pas surprenant qu'à travers toute la Bible, au nom de Babel soit resté attaché l'idée d'une grande concentration humaine dressée dans une révolte orgueilleuse contre Dieu. Maintenant, je vous prie d'ouvrir la parole de Dieu dans l'Apocalypse. On va lire dans le chapitre 17. Apocalypse 17. Ce que je veux dire par rapport à ce texte que nous allons lire, peut-être qu'il n'y a pas tout le monde qui est d'accord, peut-être qu'il y a certains qui vont m'en vouloir, je ne sais pas. Mais avant de faire cela, je vous prie d'être attentif à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, lire dans l'histoire de l'Église, regarder même sur Internet, voir un tout petit peu dans quelle direction le monde se dirige. Parce que, comme nous avons chanté là avec les poissons, nous sommes des poissons vivants, et nous, souvent, nous devons nager contre courant. Parce que si on se laisse emporter par les plaisirs, par les idées, par toute l'illumination de ce monde, le cantique là disait qu'on est des poissons morts. Alors, on va lire le chapitre 17 de l'Apocalypse. « Puis l'un des sept anges qui tenait les sept coupes vint et m'adressa la parole. » Donc à Jean. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée assise sur les grands eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'inconduite et les habitants de la terre se sont enivrés de vin de son inconduite. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate plein de noms de blasphème, et qui avait sept têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de son inconduite. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. À sa vue, je fus frappé d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, « Pourquoi t'étonner ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte et qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Et les habitants de la terre dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront à la vue de la bête parce qu'elle était, qu'elle n'est plus et qu'elle réparera. » Il faut ici de l'intelligence, qui a de la sagesse, les 7 têtes qui sont 7 montagnes sur laquelle la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, l'un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. La bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Elle est aussi l'un des 7 et elle s'en va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent le pouvoir comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ils combattront l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est seigneur des seigneurs et roi des rois. Et les appelés, les élus, les fidèles, qui sont avec lui, les vaincront aussi. Il me dit, les eaux que tu as vues sur laquelle la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront sa chair et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Beaucoup de choses. Ce n'est pas toujours facile à comprendre. Mais on est dans l'Apocalypse, c'est-à-dire qu'on est dans les derniers temps et que l'Éternel dévoile petit à petit ce que va venir. J'ai dit que sous la conduite de l'Antichrist, les hommes essayeront une dernière fois d'élever une immense tour de Babel, pas en briques, hein, comme un défi contre l'Éternel. Sous la conduite de l'Antichrist, les hommes se regroupent, s'organisent plus que jamais dans leur révolte contre le ciel. Ils font cela dans tous les domaines sous le bras dictatorial de l'Antichrist. D'abord, sur le plan politique, ils établissent un empire comme jamais le monde n'a vu. Absolument universel. Sur le plan économique et social, ils instituent un régime totalitaire. Vous savez que dans la Bible, c'est écrit à un moment donné, ceux qui ne prendront pas le signe sur le front ou sur la main droite ne pourront plus acheter, plus vendre. Donc, ils consommeront ce qu'ils auront encore dans leur frigo là et puis après, ils mourront de faim. Donc un régime totalitaire qui s'impose à toute la vie individuelle et collective. Et enfin, sur le plan religieux, ils réalisent, les hommes, l'unité spirituelle de la race humaine par la pire des idolâtries. Et la parole de Dieu la qualifie la mère des prostituées et des abominations de la terre. C'est le verset 5 qui nous dit cela. Sur son front, donc sur le front de cette femme, était écrit au nom un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et nous allons voir ce que notre texte dit sur la grande prostituée. on laisse le plan politique et le plan économique pour quelqu'un d'autre, pour une autre foi, ou pour vous, pour étudier. Alors des théologiens très renommés, Bellarmine et puis des autres catholiques qui étaient les plus écoutés, ont vu dans cette femme prostituée l'Empire romain sous Néron. Vous savez que Néron, c'était un empereur romain. Et les chrétiens ont subi sur sa domination une très grande persécution. Apparemment, il illuminait ses jardins pendant les fêtes avec des corps de chrétiens, en les enduisant de l'huile et mettant le feu. On lit dans l'histoire. Puis vint l'empire du roi Constantin, qui déclara le christianisme la religion de l'empire et qui a donné aux évêques de Rome la suprématie sous les autres dans l'empire. Une fois que l'Église romaine est devenue puissante, elle ne supporta plus de l'opposition. Tous ceux qui ne voulaient plus marcher sous les rails de l'Église qu'il avait établie étaient pourchassés et persécutés. Je passe vite dans l'histoire, vous pouvez la lire, il y a des livres, il y a tout ce que vous voulez. Après, l'an 1000, au troisième concile de Latran, le pape décida d'exterminer tous les hérétiques. Ainsi, à partir du XIIIe siècle au XVe siècle, elle a fait un grand effort avec l'aide des rois de France et des autres, d'Espagne, pour éliminer tous les albigeois qui étaient au sud de la France, autour de la ville de Carcassonne. Les albigeois, les vaudois de Piémont, les houssites, les moraves, ça c'est dans l'histoire. Tous ont été massacrés, brûlés, au nom de Jésus-Christ. C'est ainsi qu'au début du XVIe siècle, Rome pouvait se vanter d'avoir anéanti toute opposition dans la chrétienté. Puis éclata la réforme. Je peux dire que c'est un jugement de Dieu sur la situation qui était. La réforme, les réformateurs ont vu dans l'Église catholique, dans sa suprématie, dans le fait qu'elle pouvait mettre des rois, destituer des rois. Elle avait l'emprise sur le monde politique, économique. Ils ont vu dans l'Église de Rome la grande prostituée. Mais ce n'était pas la grande prostituée. Mais malheureusement, les réformés, ils ont aussi persécuté ceux qui ne se sont pas soumis à leur doctrine, comme c'est les anabaptistes. On peut tirer d'ici une conclusion. Quand une église devient l'église d'État, quand elle est appuyée par la puissance politique, on a vu ça dans tout le monde, en Amérique, partout. Elle devient persécutrice des autres. Et cela, ce n'est pas un reflet de l'amour de Jésus-Christ. Mais tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est qu'un reflet, des petits reflets de ce que va arriver à la fin du temps. Car cette femme va être assise sous les grands eaux. Verset 1. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée assise sous les grands eaux. Et le verset 15 nous dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée était assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc ça va être quelque chose d'universel. Une domination spirituelle que le monde n'a pas encore vue. Puis le texte nous dit qu'elle va être immensément riche. Verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate
et parés ou dorés d'or, des pierres précieuses et des perles. Elle tenait à la main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de son inconduite. Une église extrêmement riche et puissante. Une église apostate qui fait boire aux habitants de la terre de ses hérésies, de ses inconduites. Il avait à la main une coupe d'or, l'extérieur magnifique, c'est d'or, et l'intérieur terriblement pourri, des abominations et des idolâtries. Et elle va faire boire à la terre entière de ce vin que les hommes vont s'enivrer. Mensonges, impuretés, hérésies, de toutes sortes. C'est qu'aujourd'hui, c'est un mystère, mais ce mystère commence à être dévoilé. Pas entièrement, mais commence à être dévoilé. Et si nous voulons regarder, écouter attentivement, si nous cherchons, voyons comme les barrières tombent et des rapprochements, non seulement parmi ceux qui se disent chrétiens, mais aussi des autres religions se mettent en place. Nous sommes ici, nous sommes bien, mais regardons un peu autour de nous. Moi, quand j'ai un sujet qui m'intéresse, je commence à creuser. Je pense que c'est bien. Et ça m'intéressait. Pourquoi ? Parce que j'ai entendu qu'il y a une même chanson qui se chante maintenant un peu partout, « Unissons-nous ». Et pourquoi ça me fait mal au cœur ? Moi, je viens de Roumanie, j'ai vécu sur un système totalitaire, système communiste, et ça, c'était un slogan qui était mis partout. « Unissez-vous, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. » Pourquoi ? Pas pour qu'on vit mieux, mais pour taper la tête sur la tête des autres. Voyons les capitalistes. Donc ce mystère commence à être dévoilé. Le nom du Seigneur Jésus-Christ n'est même plus mentionné. Et ça m'a plu les cantiques d'aujourd'hui, parce que dans ces cantiques, Jésus-Christ était toujours présent. Et c'est comme ça qu'il doit être toujours présent dans nos cœurs. Mais le nom de Jésus-Christ dans tous ces rassemblements à droite, à gauche, n'est même plus mentionné. Lui qui a quitté sa gloire pour nous sauver, lui qui nous a apporté le salut, lui qui a été pendu sur une croix à ma place, qui a porté la réconciliation, la lumière au monde, lui qui est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, est écarté et à sa place, nous entendons aujourd'hui dans ces grandes conférences un peu partout, que les hommes vont s'appliquer à œuvrer à la paix, à la sécurité, à la fraternité. Et maintenant, un nouveau mot qui est venu très, très à la mode, pour le climat. Même le pape, il a dit ça. Quelques années en arrière, l'église protestante de Berne a organisé une grande rencontre à la cathédrale à Berne avec des représentants d'islam et des juifs. Et là, ils ont rédigé, après qu'ils ont fait leur culte, ils ont rédigé un manifeste ensemble. Et je vous donne juste un extrait. L'œcuménisme interreligieux est un moteur important des promotions de la justice et de la paix. C'est tout. Bon, évidemment, le nom de Jésus-Christ n'était pas mentionné. Le nom de Dieu peut être encore mentionné parce que chacun peut faire une image de Dieu. Mais c'est Jésus-Christ qui est la pierre d'achoppement. C'est Jésus-Christ qui est la pierre de l'angle. Si nous ne baptisons pas sur lui, tout va être détruit. Même les évangéliques découvrent une réelle proximité spirituelle avec des prêtres catholiques et orthodoxes et des autres. Donc c'était une conclusion de cette rencontre-là protestante. donc un avant. Après une visite en Japon, ça c'était l'année passée, une commission de l'Église catholique de Genève, je donne juste une petite conclusion, disait le shintoïsme, comme vous voulez, voilà, ça c'était la religion japonaise des bases, shintoïsme, étant tout à fait compatible avec le bouddhisme, parce que le bouddhisme s'est aussi introduit en Japon, et le christianisme, rien n'empêche les gens de choisir les rites qui leur conviennent. Voilà, c'est un mélange extraordinaire. Et ces choses-là sont dites, j'ai pris ça d'une revue de Genève, une revue catholique. C'est dit à haute voix, il y a 50 ans en arrière, que ces choses ont été dites en cachette. Aujourd'hui, on les expose et demain, on se trouve là-dedans. Je continue. Le pape s'est rencontré avec le grand imam de l'université Al-Azhar d'Égypte. Conclusion. Donc, le pape parlait aux nonnes et aux moines qui étaient là, donc aux chrétiens catholiques qui sont venus le voir. Il leur disait, pas de prosélytisme, mais œuvrons ensemble pour la paix et la fraternité. À nouveau, paix, fraternité. C'est la volonté des dieux de vivre ensemble et de défendre la cohésion sociale, la paix, la fraternité, l'immigré, la sûreté du monde et le climat. Continuons, verset 6, il nous est dit sur cette femme apostate, cette église apostate de la fin, « Je vis cette femme ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. » Et à sa vue, je fus étonné d'un grand étonnement. L'apôtre Jean, il a eu des visions. Et dans ces visions, il a vu l'Antéchrist. Il a vu le faux prophète. Il a vu même le dragon. Mais jamais il n'était pas trop étonné. Pourquoi ? Parce que ce sont des choses plus ou moins normales pour ces personnages. Mais quand il a vu l'Église, qu'elle commence à persécuter, à être ivre du sang des saints, il était étonné. Donc les persécutions que l'histoire a connues, parce qu'il a eu beaucoup, c'était que les débuts. Mais nous devons rester attachés à notre Seigneur Jésus-Christ, ferme attaché à sa parole, parce que sa parole commence à être bafouée. On commence à sortir des pages entières et les jeter à la poubelle. Et ça, je dis, même dans nos églises évangéliques, on commence à la culturaliser. Quand il y a une parole qui ne nous convient pas, on dit, ça c'est culturel. Mais pourquoi c'est culturel? Pourquoi je dois le culturaliser? Parce que si il aurait pu dire là, ça, ce n'est pas pour vous au XXe siècle. Et lorsque l'Église de l'homme, à la fin des temps, va réussir à s'organiser, elle rassemblera totalement à cette femme impure et prostituée de notre texte. Alors j'étais quelques jours de vacances. C'était magnifique. On a vu une région qu'on n'a jamais connue, un Appenzell. Et là, on a visité là et puis on a passé à côté de l'église. Et Barbara disait, on va voir, d'accord. On a passé par le cimetière parce qu'il était là. Et sous chaque nouveau tombeau, il y avait des croix en bois comme c'est l'habitude avant que la terre s'assassie pour faire le joli là, le un caillou, voilà. Oui, parce que, ouais, comprenez, vous savez. Et puis sur chaque croix en bois, il y avait un écriteau, une bande où c'était écrit au nom de Dieu ou quelque chose comme ça, Barbara qui m'a traduit. Et c'était tout. Elle me disait, c'est beau ça qu'ils ont écrit sur ça. Oui, je dis, c'est pas mal, mais bon, qui est intérêt là, moi, c'est rien. Hein. Voilà. Parce que c'était comme une formule à la fin et à chacun. Puis on est entré dans l'église. Ah ben dans l'église, alors là, je suis resté un petit moment et puis j'ai dû sortir. Parce qu'alors là, ça me semble que jamais j'ai vu des choses pareilles. Et il y avait une dame qui parlait, qui expliquait. Ça, c'est le saint, je ne sais plus, le patron de l'église. Ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Et puis les gens qui venaient, qui... Et les gens trouvaient ça très normal. Et Jésus était quelque part là aussi sur une croix mort. Il était mort sur la croix, mais les autres étaient tous vivants. Et quand j'ai visité une fois à Rome, dans la grande cathédrale de Saint-Pierre là, qui était construite avec du mensonge par le paiement de ces trucs-là, comme on appelle les indulgences. Il y avait la statue de Saint-Pierre. Et là, les gens faisaient la queue pour passer devant, pour faisaient des génoflexions. Mais Jésus-Christ était où? N'était pas là. Et le pape, quand il est sorti dehors, les gens couraient derrière lui, sûrement pour le toucher. Quel bonheur, j'ai touché le pape. Quel bonheur que le pape a mis sa main sur la tête de mon enfant. Extraordinaire. Mais Jésus-Christ, il est où? Il n'est pas là. Dans l'histoire, il y a eu des moments que certaines églises ont pu à certains moments rassembler beaucoup à Babylone. Mais à la fin des temps, la prostituée réalisera en degré inimaginable tout ce que l'apôtre nous a annoncé. L'union abjecte avec la puissance politique, le luxe outrageant, l'idolâtrie la plus scandaleuse que le monde a pu voir, l'immoralité sans frein et des persécutions terribles. Mais dit la parole de Dieu, mais à ce moment, sa fin sera très proche. Très proche. Quand les hommes diront, c'est écrit dans la Bible, dans Thessaloniciens, chapitre 5, quand les hommes diront, paix et sécurité, c'est alors que soudainement, la ruine fondra sur eux. Mais nous qui sommes de jour, soyons sobres, revêtus de la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance du salut, disait l'apôtre Paul. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est 1 Thessaloniciens 5, 3 et les suivantes. Et maintenant, j'aimerais bien vous montrer, pour clôturer, vous montrer une petite... voilà, vous voyez. Ce que le dialogue irreligieux ne doit pas être. Ah oui, interreligion ne doit pas être. Dieu est présenté dans un nuage, absolue vérité, salut, bonheur, ça c'est Dieu. Voilà, c'est un nuage qui est fermé. Pourquoi? Parce que ici sur la terre, nous, de toutes les religions, se tapent dessus. Vous voyez? Tous les uns contre les autres. Et maintenant, qu'est-ce que... Ils disent que ça va être à la fin du temps. Voilà. Absolue vérité, salut, bonheur. Dieu s'est ouvert. Et maintenant, toutes les religions ont accès à cette vérité, au bonheur, au salut. D'ailleurs, même le pape François a dit, je l'ai entendu avec mais deux oreilles, il y a plusieurs chemins qui mènent à Dieu. Donc, soyons attentifs. Et si ces choses n'arrivent pas, tant mieux. Vous pouvez jeter une pierre plus petite. Enfin. Mais ces choses se mettent en place gentiment et c'est comme ça que ça va être à la fin du temps, cette femme toute puissante, riche, mais sa fin est annoncée aussi. Et je vous laisse regarder dans la Bible pour voir comment ça va être sa fin, sa mort, sa disparition par ses amis. Merci beaucoup pour votre attention.